Il est 1h et c'est Phare FM que vous écoutez dans la nuit autrement. Et la nuit autrement vous accompagne jusqu'à 5h. J'espère que vous allez bien. Bonne écoute.
La Bible dit:
ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Car les jours que nous vivons sont mauvais.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Ma sœur, nous avons des cœurs siamois, et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe deux fois.
Build your world here on equality, and together you find what you want.
Grace and Victory Riders, Imagine One Day sur Phare FM, dans la nuit autrement. Je suis ravie de vous accompagner, je vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de la radio autrement. Ben oui, on est encore ensemble jusqu'à 5h avec de la belle musique et puis quelques moments pour réfléchir, pain de vie tout à l'heure. Il sera question de maîtriser sa colère et ce sera avec Patrice Martorano. Tout de suite de la musique. Lewis Capaldi tout à l'heure, wish you the best, et c'est ce que je vous souhaite, vraiment le meilleur. Et tout de suite on écoute Meredith Andrews, Faith and Wonder, foi et miracle. Merci de rester avec Phare FM, très bonne écoute.
Minuit 5h, la nuit autrement,
avec Mireille.
You're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling, but leave out every part about him? Right now you're probably by the ocean, while I'm still out here in the rain. With every day that passes by since we've spoken, it's like Glasgow gets farther from LA. Maybe it's supposed to be this way, but oh my love, I wanna say I miss the green in your eyes. And when I said we could be friends, guess I lied. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the
can't help but notice you seem happier than ever now. And I guess that I should tell you I'm sorry. It seems I was the problem somehow. Maybe I only brought you down. But oh my love, I wanna say I miss the grin in your eyes. And when I said we could be friends, guess I lied. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna say without you everything's wrong. But oh my love, oh, oh, oh my love, oh, oh. Wish I could say it's something I really mean, that I want you happy where the north is with me. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna say without you everything's wrong. And you were everything I need all along. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best.
Place maintenant votre message pain de vie avec le pasteur Patrice Martorano.
J'aimerais rentrer maintenant dans mon message. Une des premières, je pense même que c'est la première émotion que nous manifestons lorsque nous arrivons sur la terre. Vous savez laquelle c'est ? C'est la colère. Lorsque tu es au creux de ta maman, que tu es tranquille, 37 degrés, tu es bien, tu es en sécurité, tout se passe bien, poum, 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 tu entends les battements du cœur de ta maman, et à un moment donné, c'est la naissance, tu te retrouves complètement écrasé, tu nais, il y a quelqu'un qui te prend comme ça, il te met un coup de ciseau dans le cordon, et là, tu te retrouves avec un gars que t'as jamais vu de ta vie, pouah, il te met un coup sur les fesses. Pour la première fois, l'oxygène arrive et t'es là. Tu cries, vous comprenez? Et la colère est quelque chose d'important, c'est ce qui nous permet aussi de vivre, de nous donner justement cette force motrice qui nous aide à aller de l'avant. Et c'est une émotion que nous vivons. Sauf que cette émotion, elle peut être géniale dans le sens si on sait la canaliser, mais elle peut être très handicapante dans la vie si nous ne savons pas la maîtriser. Il y a, et je suis sûr que vous avez déjà tous vu, soit une bande dessinée, un dessin animé ou une série, que ça soit de mes grands-parents à mes enfants, on a tous vu ça, ou un film qui nous parle et avec un héros qui s'appelle Hulk. Vous avez déjà entendu parler de Hulk? C'est ce fameux géant vert. Et c'est pas le roi du maïs, hein, le géant vert Hulk. Et ce géant, en fait, quand on y réfléchit, ce monstre, c'est un monstre qui est issu de la colère. À la base, il y a un gentil docteur Branor, je ne sais plus son nom, mais il y a un gentil monsieur, un gars cool, très cool, comme beaucoup d'entre nous. C'est un gars même un peu introverti, vraiment tranquille, relax, très gentil, etc. Mais lorsque on le méprise, lorsqu'on le piétine, lorsqu'en d'autres guillemets, on le fâche, d'un seul coup, à force de prendre des frustrations, d'être menacé, de vivre des tensions, à un moment donné, tu vois ses pupilles se dilate, la veine arrive, il devient, ça commence à changer, et d'un seul coup, waouh, le monstre arrive. Je crois que c'est une belle image, Hulk, de ce que nous pouvons devenir lorsqu'on se met en colère. Lorsque tout va bien et que des gens viennent, nous fâchent, nous méprisent, parlent mal, viennent nous agresser, etc. D'un seul coup, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, on se transforme. La réalité, on se transforme. Et les gars-là, on devient des Hulks. Et les femmes, on devient des Hulkettes. Comprenez? Et je crois que ça arrive à chacun d'entre nous. Mais, Mais si nous vivons la colère, nous sommes appelés à maîtriser la colère. Le problème avec la colère est le suivant, c'est que bien souvent, nous nous mettons en colère, mais pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes, pas avec la bonne intensité. Et vous comprenez, en fait, généralement, quand on se met en colère, c'est une accumulation de plusieurs choses et d'un seul coup, ça explose. Mais ça explose pas forcément au bon endroit, avec la bonne intensité, avec les bonnes personnes, avec les bons mots, etc. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à la maîtriser. Et vous avez bien compris, j'ai dit la maîtriser. C'est le titre du message d'ailleurs de ce matin, c'est maîtriser la colère. Parce que je sais que certains vous pensez qu'on doit être délivré de la colère. Comme si la colère était un démon. On va te délivrer, sois délivré de ta colère. J'aimerais vous dire, la colère n'est pas un démon. Tu ne peux pas être délivré de la colère. La colère n'est pas un démon, la colère est une émotion. Donc tu ne peux pas être délivré d'une émotion, mais tu dois apprendre à maîtriser et à gérer cette émotion. D'ailleurs, la preuve que ce n'est pas un démon, la Bible nous dit que Dieu lui-même se met en colère. Est-ce qu'il y en a un qui veut prier pour la délivrance de Dieu ici? Ok? On va pas prier pour que Dieu soit délivré. Donc, la colère n'est pas un démon. La colère, je sais que ça arrangerait certains, « Oh, mais c'est pas moi, c'est des attaques, c'est le diable, etc. » Non, 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 c'est toi. C'est toi. Quand tu pètes un câble sur ta femme, ton mari, c'est toi. Vous comprenez? Donc, t'as pas besoin. C'est facile, ça. Prie pour moi, j'ai besoin d'être délivré. Non, 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 non. Écoute le message de ce matin. C'est beaucoup plus qu'une prédication. C'est un enseignement ce matin pour apprendre à être, pour apprendre à maîtriser justement cette colère, de savoir la canaliser, de savoir la reconnaître et de savoir comment fonctionner, dealer avec cette colère. Donc, la définition, pour vous donner une définition de ce qu'est la colère, c'est un sentiment intérieur d'irritation et de frustration qui pousse l'individu à réagir envers ce qu'il croit être l'objet de sa frustration. Comprenez-vous? Et donc, il y a plusieurs causes qui génèrent en nous de la colère. Alors, je vais juste en regarder deux, trois, rapidement, et qu'on se comprenne bien. Ce n'est pas exhaustif. J'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais celles que je trouvais, que je pensais être les plus pertinentes. Une des premières causes, on l'a lu dans la définition de ce qu'est la colère, c'est la frustration. Pourquoi la frustration? On doit comprendre ceci. C'est quoi la colère? La colère, c'est un refus de la réalité. C'est de dire non, N-O-N, à ce que je suis en train de vivre. Comprenez-vous? Et généralement, la colère, que vous en ayez conscience ou pas, en vous, il y a des phrases qui sont liées à la colère. Comme, tu devrais, tu ne devrais pas, tu dois, tu ne dois pas. Je vous donne un exemple. Tu discutes avec quelqu'un, et la personne, ça peut être ton patron, ça peut être un collègue, une personne que tu considères comme un ami, etc. Et d'un seul coup, cette personne te parle mal. Ok, elle a un langage qui est méprisant. Et là, automatiquement, ça va générer de la colère. Pourquoi? Parce que quand cette personne te parle, instinctivement, tu l'as dit cette phrase, que tu en aies conscience ou pas, tu te l'as dit. Quand la personne elle est en train de te parler, tu es en train de te dire, tu refuses la réalité. Tu la refuses. Tu es en train de te dire, tu devrais pas me parler comme ça, toi. Même si tu le dis pas verbalement, c'est ce que tu dis en toi. Mais comment il me parle, celui-là? Tu devrais pas me parler comme ça. Et là, l'autre continue de parler comme ça. Et là, tu te dis, tu devrais vraiment pas continuer à me parler comme ça. Parce que dans deux secondes, Hulk va débarquer. Vous comprenez? Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et vous savez pourquoi, hein? Vous savez pourquoi ça nous met en colère? C'est parce que au-delà de la colère et tu ne devrais pas, la colère actionne quelque chose. C'est parce qu'il y a un besoin qui est en nous et qui n'est pas rencontré et qui est bafoué par celui qui est en face de nous. Et c'est ça qui nous met en colère. Par exemple, le gars ou la femme qui te parle mal et qui te méprise, elle est en train de nier ton besoin de considération, ton besoin de reconnaissance. Comprenez-vous? Et quand mon besoin de reconnaissance est bafoué, automatiquement, c'est comme un système de réaction et de défense. Il y a quelque chose en moi qui dit, tu devrais pas me parler comme ça. En d'autres termes, tu devrais pas mépriser mon besoin de reconnaissance. Et c'est ça. Et quand notre besoin de respect, d'honneur, d'amour, de considération, etc., etc., est bafoué, c'est là où il y a, tu dois pas, tu devrais pas, et où tu devrais faire ceci, tu l'as pas fait, etc. Et c'est là que l'on se met en colère. Une autre cause, c'est la mauvaise image que l'on peut avoir de nous-mêmes. Mauvaise image de même, une mauvaise image de ce que l'on peut ressentir. Ce sont des gens, en règle générale, ça vient aussi de l'enfance, ça, du foyer dans lequel on a pu grandir, mais ils se sentent constamment menacés. Ils étaient menacés lorsqu'ils étaient enfants à la maison et ils grandissent avec un regard de menace. Vous voyez, si je prends par exemple des lunettes bleues, à votre avis, si je regarde, vous savez, avec les verres bleus, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout voir en bleu. Okay? Si je mets des lunettes roses, je vais tout voir en rose. C'est génial. Et maintenant, comprenez ceci. Si, et ça, c'est quelque chose d'invisible. On ne se rend pas compte. Mais il y en a sur le bout de votre nez. Vous avez des lunettes qui sont teintées de menaces. Et tout ce que vous voyez vous menace. Vous vous sentez menacé par tout le monde. Quelqu'un vous dit quelque chose, quelqu'un, il se passe ceci, il se passe cela. Vous êtes tout le temps, vous vous sentez tout le temps menacé. Ça, c'est une autre cause également de pourquoi on peut être en colère. Une dernière cause, avant d'aller au remède, c'est tout ce qui est dimension physique. Est-ce que vous avez remarqué que quand nous sommes fatigués, nous sommes enclins à la colère? Quand t'es fatigué, t'es beaucoup plus colérique que quand t'es bien reposé. En règle générale, et tu le dis d'ailleurs, oula, j'ai besoin de vacances en ce moment, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension physique dans la colère. Quand tu es fatigué, tu as tendance à vite rentrer en colère. Par exemple, même quand tu es malade, une rage de dents te rend irritable. Quand on a mal, quand on souffre physiquement, on est irritable. Alors que quand tout va bien, on est reposé, physiquement tout va bien, ça va. Et donc il y a un besoin, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours le besoin, un besoin de reconnaissance, là, c'est un besoin d'être en bonne santé ou un besoin d'être compris, etc. Et quand on est fatigué, on peut rentrer en clash. Alors j'aimerais qu'on puisse regarder maintenant comment maîtriser la colère. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut pas être délivré d'une émotion, mais on peut apprendre à gérer cette émotion. Alors voici ce que la Bible enseigne. Premièrement, on doit apprendre à reconnaître la colère. On doit apprendre à la reconnaître. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. En d'autres termes, Dieu nous dit clairement, à travers sa parole, que se mettre en colère n'est pas un péché. Si tu te mets en colère, ne pêche pas. Donc tu peux te mettre en colère, tu as le droit de te mettre en colère, mais Dieu te dit en même temps, parce qu'on est enclin à pécher quand on est en colère, Dieu nous dit en même temps, attention de ne pas pécher quand tu vas te mettre en colère. Attention de ne pas être violent verbalement, violent physiquement, à dire des choses que tu vas regretter. Donc ne pêche pas. Et on doit comprendre qu'il y a une colère qui est une colère saine. Si, admettons, vous voyez de l'injustice, vous voyez des enfants qui sont abusés, vous voyez des femmes qui sont frappées, vous voyez des gens où ils sont dans la précarité et parce qu'ils ont été volés, abusés, etc., etc. Et quand vous, ça ne suscite pas de la colère, il y a un problème. Comprenez-vous? Normalement, les choses qui sont injustes devraient mettre les enfants de Dieu en colère. Et que vous le comprenez bien, Jésus lui-même s'est mis en colère. À un moment donné, la Bible nous dit qu'il est arrivé dans le temple. Et là, il y avait toutes sortes de marchands qui étaient là en train de vendre des choses. Et ce qui a mis Jésus en colère, c'est pas le fait qu'on vendait des choses, hein, parce que ces choses étaient même prescrites dans la parole de Dieu, mais c'est que ces choses, normalement, devaient se trouver à l'extérieur, et il y avait ce qu'on appelait le parvis des gentils. C'est-à-dire, c'était les non-juifs. Et il y avait tout un espace qui était réservé pour les non-juifs, pour que les non-juifs puissent rencontrer et donner leur cœur au Seigneur. Et eux, en fait, ils voulaient faire un truc entre eux, et l'espace, le parvis des gentils, l'endroit qui était réservé aux nouveaux, il faisait du business là. Et quand Jésus est arrivé, la Bible nous dit, s'est mis en colère, il a renversé toutes les tables, il a viré toutes ces choses là, et il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il s'est mis en colère parce que le nom de Jésus ne pouvait plus être, le nom de l'Éternel ne pouvait plus être communiqué. Qu'on s'entende bien, il y a une colère qui est saine. Il y a une colère lorsqu'il y a des choses qui sont injustes. Nous avons le droit et nous sommes quasiment, c'est notre devoir. Littéralement, c'est fort. C'est notre devoir de nous mettre en colère face aux injustices. Alors après, bien sûr, c'est pas se mettre en colère n'importe comment. Mais c'est un appel. Jésus s'est mis en colère. Dieu se met en colère. Et il y a un appel, il y a une colère qui est noble. Mais s'il y a une colère qui est noble, il y a une colère qui est sombre, qui est ténébreuse. C'est pour ça que premièrement, on doit apprendre à reconnaître quel type de colère est en train de nous envahir. Regardez ce que la Bible dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères et les divisions. Vous comprenez? De la même manière qu'il y a une colère qui est noble et saine, il y a une colère qui est malsaine. Il y a une colère qui est suscitée par la jalousie. Je vois les autres, ils réussissent, etc. Et vu que moi, j'ai un besoin de reconnaissance, et j'ai un besoin d'être aimé, et j'ai un besoin... C'est nos besoins fondamentaux. Mais plutôt que de savoir trouver ça en Jésus et de faire ce que j'ai à faire, je commence à être envieux, je commence à être jaloux, je commence par ma colère à vomir sur un tel frère, telle sœur, l'autre qui joue à ceci, l'autre qui joue à cela, l'autre qui a écrit ça, et on commence à créer des querelles, des divisions, des inimitiés, etc., etc. Comprenez-vous? Donc la première chose que je dois faire, quelle est la source de ma colère? Pourquoi je dois l'identifier? Pourquoi je suis en colère là? Est-ce que ma colère est saine? ou elle est malsaine. Comprenez-vous ? Donc première chose à faire, reconnaître sa colère, l'identifier. La deuxième chose, c'est admettre la colère. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Comprenez ceci, celui qui nie ses problèmes de colère ne pourra jamais être guéri de ça. Ne pourra jamais apprendre à maîtriser sa colère. C'est comme un alcoolique qui refuse et qui ne reconnaît pas qu'il a un problème avec l'alcool. Tant que tu ne reconnais pas que tu as un problème avec la colère ou n'importe quel autre problème dans ta vie, tant que tu ne le reconnais pas, tu ne peux pas en sortir. Moi, je me souviens, un jour, j'ai rencontré une personne, elle était tout le temps en colère. Peut-être tu le sais, elle est tout le temps en colère, la personne. Et là, je me souviens, elle hurlait. Wah! Et je me souviens, je dis, mais pourquoi t'es en colère? Ouah, je suis pas en colère! Oh. Ok? Pourquoi tu cries? Je crie pas d'abord! Vous comprenez? Et est-ce que vous croyez que cette personne va pouvoir être heureuse dans la vie? C'est impossible. Quand je suis plein de colère, je dois admettre la colère. Et je peux pas trouver des excuses comme, ouais, mais tu comprends pas, moi, quand j'étais petit, puis ce que j'ai vécu, puis etc. Même si c'est vrai. Qu'on s'entende bien. Même si c'est vrai ce que tu as vécu quand tu étais enfant, aujourd'hui, tu es un adulte. Et tu es responsable. Je vous donne un exemple. Je vais noircir le trait pour bien vous faire comprendre. Si une personne a été abusée, lorsqu'elle était enfant, sexuellement, je prends vraiment quelque chose de grave, et qu'elle a été abusée, on est bien d'accord qu'elle est victime, un enfant est victime, on est d'accord avec ça. Mais une fois que cette personne devient un adulte, et que cet adulte abuse d'autres enfants, on est d'accord que maintenant il est coupable. Hein ? Comprenez-vous ? Donc tu peux pas toujours te cacher derrière de « Ouais, mais j'ai vécu ça quand j'étais enfant. » Oui, tu l'as vécu, et oui, tu as été une victime. Mais aujourd'hui que tu es un adulte, et que tu comprends ce qu'il y a, la colère qui est générée en toi, la manière dont tu es, il y a un appel à chercher de l'aide. Aller voir un pasteur, aller voir un thérapeute, aller voir des amis, partager, prier, un groupe de prière, peu importe. Mais tu ne peux pas te cacher derrière « Ouais, mais c'est parce que quand j'étais enfant, ceci, cela, c'est à cause de mon père, tu comprends, il m'a fait vivre ça, c'est ma mère, et nanana. » T'es devenu un adulte, tu ne peux plus te cacher. Tu es appelé à répondre de tes actes. Tu es appelé à réaliser, non, mais non, je suis un adulte et je dois me comporter comme un adulte. Et tous ceux qui le croient disent amen. Amen. On est des adultes et on veut se comporter en tant que tel. Les gens blessés, je me souviens, c'était mon professeur Denis Morissette qui nous disait ça. Les gens blessés blessent les gens. Les gens guéris guérissent les gens et les gens bénis bénissent les gens. Donc, qu'est-ce que vous désirez faire? Est-ce que vous désirez blesser, guérir, bénir? Comprenez-vous? Il y a un appel, je veux bénir autour de moi. Troisième chose, pour apprendre à maîtriser la colère, au-delà de vos émotions, n'oubliez pas que vous avez un cerveau. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Vous connaissez l'expression « il a perdu la tête ». Vous avez déjà entendu cette expression? Ça veut dire quoi techniquement? Il a perdu la tête. Est-ce que ça veut dire que c'est un bonhomme qui marche et il a plus sa tête sur lui? Quand on dit de quelqu'un, il a perdu la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, il a perdu sa capacité de raisonner. En fait, il apporte une réponse à son offense qui est disproportionnée. Ce que je suis en train de donner comme réponse est disproportionné par rapport à l'offense que je suis en train de vivre. Je vous donne un exemple. Il y a un monsieur ou madame a fait le ménage à la maison. Il y a le petit garçon de 8-9 ans, il est sorti jouer dehors. Et sa maman ou son papa lui dit, quand tu rentres, t'enlèveras bien tes bottes. Et eux, pendant ce temps, ils aspirent le couloir, la maison, ils lavent par terre. Tout est flambant neuf, ils sont contents. Et là, d'un seul coup, le petit garçon ouvre la porte. Et là, il se souvient plus, lui. Et avec ses petits petite botte, schlac, 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 il en met de partout. Là, le père ou le parent, peu importe, pète un câble, littéralement. J'ai pété les plombs, c'est ça, j'ai pété les plombs. Là, ils vont voir le gamin, mais qu'est-ce que tu fais? Ils se mettent à hurler, ils perdent la tête, ils se mettent à hurler, et c'est pas possible ça, et vu que t'as fait ça, ce soir, t'es privé de dessert, et puis pendant 2 mois, tu pourras plus jamais regarder la télé avec un dessin animé, et ta PlayStation, on la vend. Oh. Le gamin, il est là, vous comprenez? C'est disproportionné. Et souvent, quand on est en colère, on oublie qu'on a un cerveau. C'est pour ça que je le rappelle ce matin. La prochaine fois que tu vas te mettre en colère, souviens-toi que tu as un cerveau. Donc la réponse que tu dois apporter à ta colère ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'offense que tu as reçue. Vous comprenez? Il y avait une expression que j'aimais beaucoup quand j'étais au Québec, c'était « il veut tuer les moucherons avec une masse ». J'aime tellement cette image. Moi, quand on parle, je suis très imagé dans ma tête. Vous savez, tuer un moucheron avec une masse, juste pour vous donner l'image, imagine que tu as une belle table de salon, et là se pose une petite mouche au milieu. Et là, l'idée que tu as, L'idée que tu as, c'est d'aller chercher dans ta cabane à jardin la grosse masse. Blouah. Tu viens au milieu de ton salon et là, il y a ta table avec la petite mouche. Bouge pas, toi, je vais ta... Et là, blouah. Vous savez ce qui va se passer? Vous savez ce qui va arriver? Il y a peu de chances que vous arriviez à toucher la mouche. Elle va partir avant. Hein. Et vous allez tout casser autour de vous. La plupart des gens qui se mettent en colère cassent tout autour d'eux. C'est disproportionné. Combien de gens se retrouvent à vivre des choses folles parce qu'ils ont oublié qu'ils avaient un cerveau? Souviens-toi toujours que tu as un cerveau. Ne tue pas le moucheron avec la masse. Quand on te fait quelque chose, réfléchis avec ce qui vient de se passer. Et réalise que tu es un enfant de Dieu et que ta réponse entre le stimuli, entre la personne qui vient t'agresser, qui vient te piquer, et ta réponse, tu as la possibilité de la choisir, ta réponse. Tu as la possibilité de, quelle va être ma réponse par rapport à ce que je viens de vivre? Tu es appelé à être responsable et à ne pas perdre la tête. Tu n'oublies pas quand tu es en colère que tu as aussi un cerveau. Autre chose, régler, quatrièmement, vos différends. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Lorsque, je vous donne pour ma part, lorsque j'ai un problème, en règle générale, sauf si c'est impossible pour X raisons, mais en règle générale, je règle tout de suite le problème. Alors je sais qu'on a des tempéraments différents, moi je le fais assez facilement, mais quand j'ai un problème, de suite je vais voir la personne. Écoute, il y a ça, ceci, cela, et j'en discute avec la personne. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que ça me bouffe de l'intérieur. Parce qu'après ça fait un ressentiment. Et j'invite toutes les personnes qui sont plus introverties et qui gardent toujours tout en elles à savoir aller voir la personne et à savoir discuter avec les gens. Comprenez-vous? Parce que si tu gardes toujours tout en toi, vous savez ce qui va se passer? En règle générale, ça c'est des candidats à la dépression. Il y a un moment donné, faut parler. Faut que tu ailles voir les gens, et si ton frère a péché contre toi, plutôt que de faire bonne figure, bonne composition, un beau sourire, comme si tout allait bien, non, on doit apprendre à aller voir et à avoir un échange. Ça veut pas dire que ça va être agressif, mais voilà, il s'est passé ça, ça m'a attristé. Et généralement, quand on a une discussion rapide, les choses s'apaisent direct. Mais quand on reste avec son ressentiment, vous savez que le ressentiment tue? C'est pas une blague, hein. Il y a des recherches qui ont été faites. La colère tue. Vivre avec de la colère, ça finit par tuer les gens. Littéralement, il y a eu des enquêtes. Je donne un exemple. Le divorce ne tue pas. Ok? Le divorce n'a jamais tué personne. C'est le ressentiment qui va tuer les gens. Comprenez-vous? Moi, je me souviens d'une femme que j'ai bien connue. Son frère, après un divorce, sa femme l'avait trompé, il a été humilié, etc., etc., toutes sortes de choses. Et après le divorce, cet homme s'est suicidé. Le divorce en lui-même ne l'a pas tué. C'est le ressentiment qu'il a eu, la colère qu'il y avait en lui, le besoin de sécurité, le besoin d'amour, le besoin d'être honoré, le besoin, etc. Tout ça a été, on lui a craché dessus, on l'a humilié, et tout le ressentiment. Parce qu'en règle générale, après la colère, vous savez ce qui arrive? C'est la tristesse. Après être en colère, en règle générale, on est triste. Et là, ça l'a tellement bouffé, le poison au fond de lui, et il a fini par se suicider. Il y a un appel, quand tu vis quelque chose, tu dois aller parler avec les gens. Garde-le pas pour toi. Va discuter avec les gens. Écoute, s'il s'est passé ça, ça m'attriste. Je vous encourage à le faire. La Bible dit, si ton frère a péché contre toi, va le voir et régler ça ensemble. Vous savez, des moments, la Bible dit quand deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et souvent, on utilise ce passage-là pour dire, pour justifier des petits auditoires, en disant, même, c'est pas grave si on n'est pas nombreux, même quand on est deux ou trois, Jésus est au milieu de nous. Non. En fait, ce passage-là nous parle de pardon. La Bible dit, Jésus fait un enseignement sur le pardon. Si ton frère a péché, tu vas le voir, etc. Et juste après, ça dit, et lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et jusqu'à quand je dois pardonner mon frère? Jusqu'à 7 fois, 77 fois. En fait, ce passage-là, c'est un passage de pardon. Jésus est en train de dire, quand tu vas voir ton frère, quand tu vas voir ta sœur, quand tu vas voir une personne qui peut-être t'a blessé et que vous allez commencer à discuter, Jésus te fait une promesse. Je serai au milieu de vous et je vais tout faire pour que les choses s'arrangent. Je le garde pas. Je dois discuter avec les gens. Je veux que les choses aillent de l'avant. Cinquièmement, pardonner. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Moi, je crois vraiment que le pardon est un style de vie. En fait, quand tu vis, tous les jours, tu vas être offensé. Il y en a un, il va te faire une queue de poisson. Il y en a un, il va te griller ta place lorsque tu es à la caisse. Il y en a un qui, vous comprenez? Il y en a un qui va te regarder bizarre. Il y en a un, tu vas te sentir jugé. Tous les jours, écoutez bien, tous les jours, tu peux être en colère H24. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y en a, ils sont quasiment jamais en colère et pourtant, ils vivent les mêmes choses que vous? C'est parce qu'ils ne laissent pas ces choses les agripper. Pour eux, c'est, ok, c'est bon. C'est bon. Le pardon est un style de vie. La réalité, 99% de nos offenses, c'est pas des offenses qui sont graves. Il y en a de temps en temps qui sont graves, mais la immense majorité, il y a rien de grave. Et on se rend malade pour des choses où il y avait rien de grave. Vous savez, Nelson Mandela, et lui, c'était quelque chose de grave. Il a dit ceci, il a passé 27 ans dans sa cellule, et il a dit cette phrase que je trouve magnifique. Pardonner, c'est libérer un prisonnier, et vous apercevoir que le prisonnier, c'était vous. Quand tu pardonnes, quand c'est ton style de vie, tu es libre. Les gens qui sont toujours sur une emprise mentale de quelqu'un d'autre, ils se font dévorer. Libère, pardonne, c'est un style de vie et tu vas vivre dans la liberté. Sixièmement, trouver un facteur sain pour évacuer. Et là, j'ai mis comme référence le livre des psaumes en entier. Vous savez que le livre des psaumes, la majeure partie a été écrite par David. Et est-ce que vous savez que c'était le journal intime de David ? David avait un journal intime, c'est le livre des psaumes. Imaginez, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns, vous avez un journal ici. Imaginez qu'un jour, on lise votre journal. Ben nous, on lit le journal de David. Imagine, dans son journal, tu le vois, il décrit toutes ses émotions. À un moment donné, il est tellement abattu qu'il dit « Toute la nuit, j'ai pleuré. Le matin, je me suis levé et ma couche, c'est-à-dire mon lit, mon matelas, était inondé, mouillé de mes larmes. » Et là, on voit, il est dans une profonde tristesse et il pleure. Il nous livre son intimité, il nous livre son cœur. Et là, j'ai pleuré. Et en d'autres moments, tu as envie de dire « Waouh, David, calme-toi. » Demain, il est là, Seigneur, tu les tues tous, fais-les passer par le fil de l'épée, tu les détruis, tu les extermines. Oh, David, calme-toi quand même là. Vous comprenez? Mais pourquoi? Parce que c'était son journal intime. Il partageait ses émotions. Il disait ce qu'il était en train de vivre. C'est bon de trouver un facteur sain d'évacuer. Certains, vous allez composer des chants. Il y a plein de beaux chants qui ont été écrits parce que on a connu une blessure, ça nous a mis en colère. Ensuite, il y a eu une tristesse et de cette tristesse a émergé un chant magnifique. Va dans un bois, crie, parle à Dieu et hurle toute ta colère qui est au fond de toi et repars de ce bois complètement libéré, prie, loue Jésus, fais un journal intime, va trouver un thérapeute, va voir un pasteur, va voir quelqu'un, mais fais quelque chose pour que les choses puissent sortir. Parce que si ça ne sort pas, ça va finir par tronger de l'intérieur. Comprenez-vous? Donc tu trouves un facteur. Il y a cette notion, David le faisait, il écrivait. Je crois que l'écriture, c'est une des plus belles thérapies qu'il puisse y avoir. Je parle à mon Dieu de ce que je suis en train de vivre. Et je suis sincère quand j'écris. David, même si c'est l'homme selon le cœur de Dieu, il nous montre des facettes de sa colère. T'as envie de dire, c'est ça un homme selon le cœur de Dieu? Mais comprenez-vous, il était vrai. Il parlait de ce qui le frustrait. Et il n'avait pas honte de le dire. J'en ai marre, là ils me font vivre ça, puis les autres ils me font vivre ça, et j'en ai marre, j'aimerais les voir mourir, etc., etc. Il le disait, mais en le disant, quand vous lisez ces psaumes, vous apercevez toujours qu'il finit en glorifiant le nom de Dieu qui vient le délivrer. Ça commence par quelqu'un qui évacue toute sa colère, et ça finit par quelqu'un qui glorifie le nom de Jésus. Donc écris, parle à Dieu, et Dieu va faire ce qu'il a à faire. Septièmement et dernièrement, évitez le point de rupture. En d'autres termes, il faut connaître son point de rupture, c'est-à-dire le point de non-retour, c'est-à-dire le moment où tu vas devenir Hulk. Faut éviter d'aller jusqu'à là. Ok? En fait, écoutez bien, tu le sais. Si tu es à l'écoute de ton corps, tu le sais. Si, admettons, il y avait une bombe qui était là, j'ai jamais vu une bombe de ma vie, hein, mais imaginez, j'ai vu des films, imaginez que c'est comme sur les films, il y a un compte à rebours. Je sais pas s'il y a vraiment un compte à rebours, mais imaginez, il y a un compte à rebours. Et que là, tu arrives, les démineurs arrivent. Et les démineurs voient que la bombe éclate dans 2 heures. Les démineurs confiants. Inquiétez-vous pas les amis, on maîtrise, sortez, on va régler l'affaire, il n'y a aucun souci, on est venu à temps. Mais non, comprenez bien ceci, la même bombe, les mêmes démineurs, ils arrivent et là ils lisent 10 secondes, 10, 9, 8, à votre avis ce qu'ils vont essayer de la déminer? Ils vont hurler, sortez tous, et eux-mêmes, pfiou, ils vont tous partir en courant. Parce qu'à un moment donné, tu ne pourras pas, elle va exploser la bombe. Donc quand tu sens que tu arrives à ton point de rupture, joue pas le super spirituel. Non, mais même moi, la dernière seconde, je peux la désamorcer. Non, non, non. Ne joue pas avec ça. Quand tu sens que ça monte, pars. Évacue. Pars en courant. Ça va exploser. Tu pars. Vous comprenez? C'est pas le moment d'essayer de déminer quelque chose. C'est même pas le moment d'essayer de régler ses problèmes. Je sais qu'il y en a qui disent, oh, mais avec ma femme, la Bible dit, on ne doit pas se coucher sous la colère, etc. Moi, je vous le dis, des moments, va dormir. Va te coucher. Sinon, jusqu'à 6 heures du matin, tu vas encore y être. Va te coucher. Ok? Dors et demain matin, tu vas régler le problème. Une bonne nuit de repos, ça te fera du bien. Vous comprenez? Cherche pas Comprenez-vous? Maintenant, je reviens et je conclue avec ça. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, le mécanisme de la colère, c'est un besoin qui a été bafoué. Mon besoin a été bafoué. Je vois la personne qui bafoue mon besoin et je me dis, cette personne ne devrait pas faire ça. Ou elle devrait faire ça, puis elle ne l'a pas fait. Et je me mets en colère. Maintenant, comprenez ceci. Celui qui remplit tout en tous en nous, c'est Jésus. Et je crois que si nous sommes remplis de Jésus, celui qui remplit notre besoin de reconnaissance, de pardon, d'amour, de sécurité, d'honneur, de tout ce que nous avons besoin, même quand les autres bafouent ça, ça va nous agacer, hein, qu'on s'entende bien. Ça va nous agacer. Mais on ne le prend pas pareil que si nous sommes vides de Jésus. Quand je suis vide de Jésus, les moindres choses me font démarrer. Les gens qui sont tout le temps en colère, je suis désolé de vous le dire, mais je vous le dis. Quand vous êtes tout le temps H24 en colère, c'est que vous ne passez pas de temps avec Jésus. Parce que quand vous êtes plein de Jésus, vous ne rentrez pas dans des colères comme ça. Ça va vous agacer. Ça va vous agacer. Ça va vous énerver. Mais Jésus remplit vos besoins. Le besoin de considération que tu as, Jésus te l'a rempli. Et même si un collègue au boulot ne te le remplit pas, ça va t'agacer, ça va t'énerver. Mais tu es tellement plein de Jésus que tu vas le voir différemment. Comprenez-vous? Et il y a ce besoin. C'est pour ça que Jésus nous remplit. Il remplit tout en tous. Il remplit notre besoin de considération, d'amour, d'honneur, de respect, de pardon, de joie, de paix, etc. Et même quand les autres, les êtres humains, ne sont pas à la hauteur, Jésus lui a été à la hauteur.
Ce message a été enregistré à l'église Momentum de Bordeaux. Pour le réécouter, rendez-vous sur eglisemomentum.com.
Phare FM, l'émotion partagée.
Je vois ton sourire sur chaque visage, mais le tien était plus beau. Je voudrais revenir à nos photos. Je me mets à courir sur la plage et nos souvenirs coulent à flot. C'est toi qui gères.
Je te
Esmé sur Phare FM. Dans les langages de l'amour, il sera question de la signification du mariage. Ce sera tout à l'heure après Danny Gucci qui nous interprète Haven't Seen It Yet. Et tout de suite, Jason Mraz, I Feel Like Dancing. Vous êtes à l'écoute de la radio Autrement. Merci de rester avec moi.
And it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it. Get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in the hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing.
I like to dance and it looks like this.
I like to dance and it looks like this.
Yeah, looking good. We like to dance and it looks like this.
Come on.
Smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing.
Praying, and you still have no answers. Have you been pouring out your heart for so many years? Have you been hoping that things would have changed by now? Have you cried all the faith you have through so many tears? Don't forget the things that he done before, and remember he can do it all once more. It's like the brightest sunrise waiting on the other side of the darkest night. Don't ever lose hope, hold on and believe. Maybe you just haven't seen it, just haven't seen it yet. You're closer than you think you are. From the break of dawn, all his promises are just up ahead.
De l'amour.
De nombreuses personnes voient le mariage comme un contrat. Je ferai ceci si tu fais cela. Mais la Bible voit le mariage comme une alliance. Je veillerai à ton bien-être, peu importe la manière dont tu me traites. Je vois notre mariage comme une relation permanente. Je ne te quitterai pas parce que je t'aime. Et parce que je t'aime, je m'opposerai à toi quand je te verrai faire des choses qui me semblent nuisibles. Je dirai la vérité dans l'amour. Quand tu confesseras tes erreurs, je te pardonnerai et je ne te le reprocherai plus jamais. Je suis engagé à t'aider pour accomplir la volonté de Dieu. Tu peux compter sur mon soutien. Pour avoir ce cœur et cette puissance de vivre sous une telle alliance, je ne connais qu'une seule source, Dieu. C'est un Dieu qui garde son alliance et vous aidera à la garder.
C'était Les Langages de l'amour de Gary Chapman, une production de l'Institut biblique Maudit de Chicago en partenariat avec Phare FM. Écoutez, c'est Phare FM.
I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how. Fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. That's what's going on. Nothing's right.